Chers amis, nous sommes heureux de vous accueillir cet après-midi et pour ce week-end consacré à l'œcuménisme. Je rappelle que lors de notre dernière réunion d'église au mois de juin, plusieurs avaient souhaité avoir des informations sur ce sujet. Et notre conseil a donc répondu favorablement à ce souhait, et en particulier M. Blocher, et qui connaît plus ou moins, je ne vais pas aller au-delà de ce qui pourrait être dit, et qui connaît ce sujet, et qui en a déjà parlé, je crois, il y a quelques années, a bien voulu consacrer ce week-end pour vous en parler. Cet après-midi, il va présenter une introduction sur ce sujet, et demain matin, lors de l'Institut biblique, il en donnera un développement très large, et ensuite, dans l'après-midi, nous aurons l'occasion d'échanger nos points de vue les uns et les autres, et ensuite, une conclusion sera apportée. En vous remerciant d'être venu, je voudrais vous recommander et recommander notre frère à la grâce du Seigneur, parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, c'est toujours pour la recherche de sa gloire et pour l'édification de son peuple. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ceux que tu nous as donnés dans cette Église comme enseignants, prédicateurs ou bergers. Merci pour ceux que tu nous as donnés comme frères et sœurs dans d'autres domaines. Merci d'être ensemble devant toi dans un service auquel notre Seigneur nous appelle pour avancer dans la vérité, mais aussi rempli de ton esprit d'amour et de sagesse. Conduis-nous donc encore cet après-midi. Ouvre nos cœurs, notre intelligence, donne-nous de discerner quelle est ta volonté pour aujourd'hui, la volonté pour chacun de nous, mais aussi pour ton peuple, et donne-nous de nous y engager dans ta lumière, les uns avec les autres, ceux que tu as appelés et ceux que nous pouvons reconnaître comme frères en la foi et pour témoigner à la face du monde que tu as aimé les hommes, que tu les as appelés pour une famille nouvelle, un monde nouveau en Jésus-Christ. Amen.
Amen. Pour préfacer notre étude de cet après-midi, je vous propose deux lectures tirées de l'Ancien Testament. Tout d'abord, dans le livre du prophète Ézéchiel, il s'agit de deux passages apparentés pris chez les prophètes. Donc, tout d'abord, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, je voudrais lire les versets 15 à 24. Ézéchiel 37, verset 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Toi, fils d'homme, prends une pièce de bois et écris dessus à Judas et aux fils d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus à Joseph, bois d'Éphraïm, et à toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre, que tu n'aies qu'une seule pièce de bois, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Lorsque les gens de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici, je prends le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, ils seront unis dans ma main. Les pièces de bois sur lesquelles tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici, je prends les Israélites d'entre les nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ferai revenir sur leur territoire. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles et par leurs abominations et par tous leurs crimes. Je les sauverai de tous les lieux où ils ont habité et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes prescriptions et les mettront en pratique. Puis je lis dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 11, un passage où j'entends l'écho du texte d'Ézéchiel. Zacharie est venu deux ou trois générations après Ézéchiel. Zacharie chapitre 11, versets 7 à 14. Alors je fis paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus malheureuses des brebis. Je pris deux houlettes, j'appelais l'une tendresse et j'appelais l'autre union. Et je fis paître les brebis. Je fis disparaître les trois bergers en un mois. Ils avaient fini par m'impatienter et de leur côté ils m'avaient pris en dégoût. Alors je dis aux brebis, je ne vous ferai plus paître, que celle qui va mourir meure, que celle qui va disparaître disparaisse, et que celle qui reste se dévore les unes les autres. Je pris ma houlette tendresse et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais conclue avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là et les plus malheureuses des brebis qui prirent garde à moi reconnurent que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le faites pas. Ils pesèrent pour mon salaire 30 pièces d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Je pris les 30 pièces d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Puis je brisai ma seconde houlette union pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. Jusqu'ici notre lecture. L'écuménisme est parmi les chrétiens évangéliques un sujet qui fait flamber les passions. Rares sont les débats qu'encombrent davantage de malentendus sur les mots et de méconnaissances sur les faits. Peu de gens, par exemple, savent que le premier usage enregistré du mot écuménique dans son sens moderne, celui qui correspond à notre titre pour ce week-end, s'est trouvé sur les lèvres d'Adolphe Monod, le grand prédicateur fidèle à la Bible, et lors des réunions de fondation de l'Alliance évangélique. Donc il y a maintenant un siècle. C'est le premier usage où le mot écuménique ne désigne plus, comme dans l'Antiquité, ce qui a rapport à la terre entière. Le mot dérive du mot oikoumene, qui est employé dans le Nouveau Testament, et qui s'utilise pour la terre entière, le monde habité. C'est le premier usage où le mot ne désigne plus donc simplement le fait de se référer à la terre entière, mais désigne une attitude et une démarche qui tente de rapprocher ceux qui portent le nom de chrétien, à les réunir puisqu'ils se trouvent dans une situation de dispersion ou de séparation au moins relative. Nous allons essayer d'élucider au moins quelques-uns des points relatifs à cette question de l'écuménisme et en vue d'adopter, si possible, entre nous une attitude commune en tant qu'Église que nous sommes. Je vais vous proposer deux exposés, c'est ce qui m'a été demandé par le Conseil, deux exposés cet après-midi et demain matin, et puis nous aurons l'après-midi de demain pour échanger très librement. Alors les deux exposés, correspondant donc aux deux volets de ce que j'ai à vous communiquer, seront très différents par l'axe choisi. Cet après-midi, c'est de l'histoire. Ce que je veux vous présenter, c'est une esquisse. Bien sûr, c'est une très brève esquisse, très sélective. Une esquisse de l'histoire de l'écuménisme, prise au sens de cette entreprise en vue de la réunion des chrétiens, ou de ceux qui s'appellent tels. Il s'agira de faits, si possible, dans leur factualité indubitable et incontestable. Je limiterai les jugements de valeur. On n'échappe jamais, dans la simple façon dont on présente les faits, à quelques jugements de valeur. Mais je souhaite rester aussi neutre que possible cet après-midi. Et les questions après l'exposé, parce que je pense que nous avons le temps cet après-midi, devraient porter uniquement sur ce dont nous devons parler aujourd'hui, à savoir les faits. L'histoire du mouvement écuménique, chez ses précurseurs d'abord, et au XXe siècle ensuite. Et demain matin, je voudrais parler davantage des lignes directrices, des principes qui doivent nous guider, et des options qui, à partir de ces principes, me semblent recommandables. Celle que, personnellement, je recommande. Ce sera le sujet de l'exposé de demain matin. Vous voyez donc que là, nous serons sur une autre longueur d'onde que nous nous essaierons au contraire d'aboutir à des jugements de valeur. Alors que cet après-midi, je tente de rester plutôt neutre. Alors je passe donc à cet exposé qui est d'abord un exposé historique. De tout temps, le peuple de Dieu a connu des forces antagonistes, des forces de division, éparpillant en sous-groupes ceux qui prétendent faire partie de l'alliance divine, et des forces de réunion, des forces centripètes, des forces encourageant à la coopération et la communion. Et à certains moments au moins, l'action de ces forces opposées semble correspondre au plan de Dieu. J'ai lu deux passages prophétiques qui manifestement ont une parenté, puisqu'il s'agit dans les deux cas de signes prophétiques utilisant des morceaux de bois et évoquant à l'aide de ces morceaux de bois le thème de l'union ou de la division du peuple. Mais chez le prophète Ézéchiel, il s'agit d'un signe qui annonce la réunion des deux moitiés du peuple de Dieu qui étaient restés séparés longtemps pendant des siècles, qui s'étaient même fait la guerre, Juda et Israël du Nord et autour d'Éphraïm. Au contraire, dans le livre de Zacharie, c'est l'un des morceaux de bois que le prophète, au nom de l'Éternel, doit casser en deux, la houlette lien ou union, comme traduit la Bible à la Colombe, doit être cassée pour marquer la rupture de la fraternité entre Israël et Juda. Donc, un signe de même sorte, mais qui annonce un message juste opposé. Je crois que c'est intéressant à noter. Je ne vais pas entrer plus loin dans le travail d'interprétation de ces deux passages. Nous avons d'ailleurs pu, dans l'Institut public sur les prophètes, en dire un mot. Mais je souligne donc, de manière très très générale, on trouve à toute époque, et déjà dans l'Ancien Testament, des tendances opposées. Je m'abstiens de jugement de valeur pour le moment, à leur égard. Dans le cours de l'histoire de l'Église, depuis le Nouveau Testament, cette même situation peut s'observer. Dans le Nouveau Testament, tendance centrifuge à coup sûr, les divisions, les dissidences, ce que le Nouveau Testament appelle secte ou hérésis, c'est le mot qui est devenu hérésie en français, mais aussi des efforts d'union très conscients et très délibérés, en particulier de la part de l'apôtre Paul, dont la mission aurait pu être séparatiste, et qui va jusqu'à dire que s'il n'était pas approuvé par les apôtres de Jérusalem, par ceux qui sont considérés comme les colonnes, les apôtres et Jacques, il aurait couru en vain. On a aussi souvent évoquer la grande collecte qu'il a faite en faveur des saints appauvris à Jérusalem comme non seulement un geste de charité fraternelle, mais aussi une mesure destinée à sceller l'union des chrétiens, des églises pauliniennes et des églises judéo-chrétiennes du début. Donc, dans le Nouveau Testament, nous voyons ces forces opposées et ces démarches opposées déjà assez clairement. Et par la suite, ça continue, mais je vais passer très très vite sur le premier millénaire et demi. J'y vais à très gros traits, bien sûr, dans un exposé juste de 45 minutes, une heure, cet après-midi. Pour le premier millénaire, je retiendrai deux données essentiellement. Je soulignerai qu'elle a été le facteur prédominant du côté des ruptures et du côté des efforts de réunion. Efforts efficaces jusqu'à un certain point. La raison prédominante des ruptures pendant le premier millénaire, c'est-à-dire donc l'Antiquité chrétienne, la période des pères de l'Église, et puis le haut Moyen-Âge, en gros donc jusque vers l'an 1000, la raison prédominante des ruptures a été doctrinale. C'est sur les fondements de la foi que l'on s'est divisé. Et l'Église qu'on a dite orthodoxe, bien sûr les autres aussi se pensaient orthodoxes, mais ne l'étaient pas, s'est séparée en excluant de manière délibérée et combative ceux qui paraissaient menacer les fondements mêmes de la parole de Dieu enseignée dans l'Écriture. En particulier, au deuxième siècle, les gnostiques, ça commence déjà sans doute dans le Nouveau Testament. Le mouvement dit gnostique, qui a été divers, avec un certain Marcion aussi, était extrêmement dangereux. Leurs précurseurs sont appelés les antichrists par la première épître de Jean. Je pense qu'on peut dire, et c'est conforme à la tradition, que les adversaires que vise la première épître de Jean sont les premiers gnostiques, les pré-gnostiques. Et au deuxième siècle, ça a été un mouvement très très puissant, qui avait l'avantage, d'ailleurs, de s'accorder bien mieux avec l'esprit du temps. Un grand spécialiste de l'Antiquité chrétienne, le savant historien Grillmayer, a d'ailleurs souligné que le gnosticisme au IIe siècle, c'est le modernisme. C'est une version du christianisme qui s'adapte aux pensées dominantes de l'époque. C'est un compromis dont la deuxième à Timothée nous dit qu'il garde la forme de la piété, un langage chrétien, mais qu'il renie ce qui en fait la force. Alors, l'Église qui s'appelait la Grande Église, l'Église qui s'est voulue orthodoxe, en s'appuyant sur le canon du Nouveau Testament, dont elle a alors bien précisé les limites, s'est opposée au gnosticisme, les a exclus, les a condamnés. Mais le danger a été assez sérieux. Il y a même eu un leader gnostique qui semble avoir frôlé l'élection pontificale. On pense que c'est un peu par dépit de n'avoir pas été élu évêque de Rome qu'il est devenu finalement un chef de mouvement gnostique. Donc, il y a eu ce mouvement-là, et puis plus tard, l'autre grand mouvement qui a failli l'emporter, c'est le mouvement arien, qui niait la divinité de Jésus-Christ. La doctrine du Christ chez les Ariens est à peu près celle des témoins de Jéhovah aujourd'hui. Dans l'Empire romain, ils ont été la majorité à un certain moment, au IVe siècle. Et ils avaient l'empereur pour eux. Donc, il s'en est failli de peu qu'ils l'emportent. Et au-delà de la frontière de l'Empire romain, où finalement, ils ont été condamnés par les conciles. Au-delà des frontières, c'est eux qui ont fait un travail d'évangélisation qui n'a pas été absolument sans fruit. L'Europe au nord du Danube a été évangélisée par les Ariens et les Francs. Les tribus des Goths et des Francs ont été évangélisées par des Ariens. Et la conversion de Clovis est une conversion à ce qu'on a appelé à ce moment-là catholicisme, mais à la version du christianisme qui reconnaissait la divinité de Jésus-Christ. Parce que Clotilde, sa femme, était, elle, convaincue de la divinité de Jésus-Christ. Et le grand changement que la conversion de Clovis a impliqué, c'était un changement de l'arianisme à la religion de la grande église, dite orthodoxe, dite catholique à l'époque. Donc, si on s'est divisé, si on a marqué des frontières, si on a creusé des fossés, c'était pour sauvegarder l'essentiel de la foi sur des points décisifs. Et le facteur prédominant des efforts d'unité, quel a-t-il été? Il me semble que ça a été le pouvoir institutionnel. À l'époque, ce qui a sauvegardé l'unité, alors on se divisait des hérétiques, mais pour sauvegarder l'unité interne, c'est le pouvoir d'une hiérarchie qui est devenue de plus en plus monarchique au fur et à mesure que les générations passaient. On voit très clairement ce pouvoir s'accroître au cours du IIe siècle, et entre autres d'ailleurs parce qu'il fallait faire front à l'hérésie, donc discipline dans les rangs, mais aussi avec des paliers d'autorité supplémentaires. Au-dessus des anciens s'est élevé l'épiscope, l'évêque, alors que, semble-t-il, dans le Nouveau Testament, c'est simplement un autre nom pour les mêmes anciens. Et puis au-dessus des évêques, il y a eu les archevêques ou patriarches, avec une préséance pour le patriarche de Rome, le patriarche de la Nouvelle Rome qu'a été Byzance, une fois que l'empereur y a déplacé siège de son pouvoir. Donc, pouvoir institutionnel dans les structures mêmes de fonctionnement de l'Église et pouvoir politique. Car l'empereur, à partir de la conversion de Constantin, est considéré comme un évêque du dehors. Il se mêle de théologie. C'est lui qui convoque le concile et il intervient très fort. C'est pour ça que lorsque l'empereur s'était décidé du côté arien, la menace était grande. Ce sont ces institutions et les hommes qui étaient aux commandes, bien sûr, qui me semblent avoir empêché la désagrégation du corps, avoir lié les uns aux autres les églises et les membres d'église. Cela, très grosso modo, pour le premier millénaire. Je considère maintenant les 500 ans qui ont suivi. C'est du grosso modo, bien sûr, hein, quand je dis 500 ans. De 1000 à 1500, en gros. C'est le Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge, dans ses grandes floraisons, et le bas Moyen-Âge. Au XIe siècle, donc, après l'an 1000, c'est le schisme d'Orient. La grande division entre les Orientaux qui s'appelleront classiquement orthodoxes et les Occidentaux qui, en général, parlent latin et qui s'appelleront catholiques. Alors, il y a bien sûr aussi des gens en Orient qui relèveront du type de christianisme ou de la moitié de christianisme ou de chrétienté qui considérera Rome comme sa capitale, mais en gros quand même c'est l'Orient d'un côté, l'Occident de l'autre. En fait, il y avait eu malaise dans les relations, tension, suivi de relâchement, puis tension de nouveau depuis plusieurs siècles. Et quand on prend la date de 1054 pour dire c'est la date du schisme, en fait c'est un peu une commodité parce que cette date n'a pas été ressentie sur le moment comme ayant une importance décisive. Il y avait eu d'autres affaires, enfin c'est généralement ce qu'on dit. Et la masse des fidèles ne l'a pas ressenti. C'était les chefs des églises, mais les fidèles, les moyens de communication étaient très pauvres, d'informations vraiment minimaux. Donc on n'a pas beaucoup senti cette division-là. Elle est devenue très sensible un peu plus tard, je le signale quand même parce que c'est un fait historique que nous risquons de ne pas jauger à sa valeur, au début du XIIIe siècle, avec un événement dont tout l'Occident peut encore avoir honte. Vous savez que les croisés, l'armée des croisés qui partait pour défendre la croix, c'était la croix qui était sur sa bannière, pour délivrer les lieux saints, qui étaient sous la domination des musulmans, que ces croisés sont passés par la ville chrétienne de Constantinople, Byzance, hein, ce sont les deux noms de la même ville qui s'appelle aujourd'hui Istanbul, et ont complètement mis à sac cette ville, l'ont pillée, se sont comportés en soudards violents et violeurs, une épouvante. Et le christianisme oriental se rappelle encore cet acte des catholiques, entre guillemets, des occidentaux qui partaient pour la cause de l'évangile, prétendument, et qui se sont livrés à un acte aussi méprisable. Alors là, ça a été ressenti. Donc, le demi-millénaire que nous considérons a été marqué par le schisme d'Orient, d'abord peu ressenti, mais il y a eu les croisades pour lui donner une sorte de retentissement. Si nous considérons l'Occident, le seul Occident, parce que nous sommes des Occidentaux, que dire à propos de ces tendances à la division et d'autre part à l'union? Quels sont les facteurs prédominants qu'on peut relever dans ce temps de chrétienté établie? Là encore, deux choses. Je retiens deux choses, parce que je veux aller vite. D'abord, qu'il y a des mouvements dissidents, presque à chaque génération, qui naissent comme en marge de cette société chrétienne catholique, comme elle se dit, et qu'ils sont réprimés par le fer et par le feu. Alors ces mouvements dissidents sont soit bibliques, soit gravement hérétiques. Il ne faut pas les confondre. Et il ne faut pas, parce qu'ils ont été persécutés, penser que c'était des saints. Forcément, non. Il y avait aussi d'horribles hérétiques. Nous pouvons et nous devons déplorer qu'ils aient été combattus par les armes, mais ne confondons pas avec les croyants bibliques. Mais il y a eu des croyants bibliques, en particulier les Vaudois, qui se sont établis dans le Piémont, qui ont survécu dans les hautes vallées des Alpes, parce que là, quand même, ils pouvaient se réfugier. Leur nom, hein, vous le savez, je pense, ne vient pas du tout du canton de Vaud, en Suisse romande. C'est parce qu'ils étaient les disciples d'un marchand de Lyon, Pierre Valdo, qu'ils ont porté le nom de Vaudois. Et leurs églises existent jusqu'à ce jour, mais à ce jour, en Italie, les Vaudois ne se distinguent guère des réformés, de l'église réformée de France dans notre pays. Donc, mouvement biblique, c'est un mouvement clairement biblique que ce mouvement des Vaudois, mouvement au contraire franchement hérétique, quasiment gnostique, c'est une sorte de rejeton du gnosticisme, mouvement cathare, qui a suscité aussi une croisade épouvantable pour le réprimer, le supprimer, qui était aussi l'occasion pour le nord de la France de coloniser, d'écraser le Midi, qui à certains égards culturels au moins était plus avancé que lui. Donc, premier grand fait pour ces 505 siècles que nous considérons, mouvement dissident, il y en a, mais réprimé. La chrétienté est cependant, elle qui est censément unifiée, qui constitue un grand corps chrétien, un corpus christianum, travailler de forces divergentes. Et il faut en prendre conscience. Les ordres religieux, les grands ordres religieux, sont souvent presque en guerre les uns contre les autres. En tout cas, il y a une rivalité considérable. Lorsque les ordres mendiants surgissent au début du XIIIe siècle, par exemple, ils sont vus de très mauvais œil par les bénédictins qui étaient déjà là et qui avaient un style beaucoup plus féodal. Et on appelle ces ordres mendiants les nouveaux apôtres, et il y a des pressions qui s'exercent à Rome pour que le pape les interdise. Le pape va les interdire, il meurt. Et le successeur est au contraire favorable à ces ordres mendiants. Mais c'est vous dire à quel point il pouvait y avoir des tensions entre écoles théologiques, entre les thomistes et les franciscains, et en particulier quand les franciscains sont devenus nominalistes, pour ceux qui veulent le détail de cette histoire des idées, les luttes pendant toute la dernière partie du Moyen-Âge entre pape et concile, entre le parti qui favorisait le pouvoir du pape et celui qui lui opposait l'autorité du concile, les questions politiques interférant, parce qu'il y avait rivalité de l'empereur et du pape, et puis le roi de France jouait son jeu, ça a été une période assez troublée avec des tensions. Il ne faudrait pas dire, en dehors des mouvements hérétiques, c'était la belle unité. Elle était très, très tendue, cette unité, presque à se déchirer. Mais, bon, vaille que vaille, on restait ensemble. Il y avait quand même un certain fonctionnement unitaire. Et l'éclatement a eu lieu au XVIe siècle, au temps de la réforme ou des réformes. C'est au XVIe siècle que la situation où nous nous trouvons encore a été créée, avec une pluralité confessionnelle en Europe. Plusieurs églises bien établies, dans les mêmes territoires ou dans des territoires voisins. Parce que pendant tout un temps, le système qui a fonctionné, c'était que la religion du prince déterminait la religion de son territoire. Seulement, il y avait un émiettement de territoire, donc on rencontrait ce qui n'avait pas été le cas auparavant. En faisant quelques kilomètres, une religion différente, disons une église différente. On parlait aussi de religion. Vous savez qu'en France, où précisément le prince a opté finalement pour la religion catholique, mais où il y a eu, malgré tout, persistance d'une église réformée, on disait la religion prétendue réformée. RPR, au XVIIe siècle, ça voulait dire la religion prétendue réformée. Donc, situation nouvelle, qui n'est pas sans lien avec une autre donnée historique nouvelle en ce temps-là, c'est l'émergence des États-nations. L'État-nation moderne date de cette période. La France ayant sans doute été la première des nations à s'unifier et à se concevoir comme État et à centraliser avant les autres en Europe. Alors, quels sont les groupes, les églises, qui vont être, au moins jusqu'à un certain point, séparés, qui procèdent de ces réformes? Je vous donne juste le petit schéma pour que vous vous y retrouviez. La réforme dite magistérielle, c'est la réforme tout court, si vous voulez, celle dont on parle généralement sous le nom de la réforme. La réforme dite magistérielle parce qu'elle a généralement réussi avec l'aide des magistrats, là où elle réussissait, a engendré trois groupes, trois églises avec un nom différent, trois confessions, et qui parfois se sont fait la guerre. Il y a eu les églises luthériennes, les églises réformées, appelées presbytériennes dans certains pays, les églises réformées regardant essentiellement à Zwingli et à Calvin comme à leur théologien fondateur, et l'église anglicane. L'église anglicane qui est un cas particulier, la politique a beaucoup joué pour qu'elle soit créée. Elle a adopté une confession de foi de type calviniste, c'est 39 articles, mais elle a gardé une liturgie de type catholicisant, avec des textes liturgiques allant dans ce sens. Et tout son génie a été de pratiquer ce que les Anglais appellent comprehensiveness, l'aptitude à garder ensemble des éléments assez disparates, des tendances assez divergentes, mais apprenant à coexister. On peut dire que ça a été la tradition même de l'Église anglicane, qui parfois s'est présentée comme la voie moyenne idéale entre catholicisme et protestantisme, à raison même de cette capacité qu'ont eu les anglicans à faire coexister des gens dans la ligne de Calvin et des gens qui n'étaient pas si loin de Rome, au moins dans leur conception liturgique. Donc, procédant de la réforme dite magistérielle, ces trois groupes. Procédant de la réforme dite radicale, ou aile gauche de la réforme. Il n'y a pas eu tant de groupes parce que la réforme radicale a été persécutée, écrasée par la persécution, aussi bien de la part des catholiques que des protestants. Des protestants que des catholiques. Il y a eu les Ménonites, du côté biblique, du côté biblique évangélique. Ils ont été les rejetons de la réforme radicale qui ont pu subsister grâce à la protection ici ou là de quelques seigneurs, et puis parce qu'ils ont accepté de monter en haut des montagnes, de cultiver les terrains les plus ingrats au fin fond du Jura, etc. Donc, les Ménonites, et puis du côté libéral, parce qu'il y a eu aussi, dans cette aile gauche, déjà des libéraux, des modernistes considérables, les Sauciniens, qui ont surtout réussi à établir des églises qui ont duré, ils ont eu des facultés de théologie, en Pologne. En particulier en Pologne, aussi quelques antennes aux Pays-Bas. Les baptistes, eux, ne sont venus qu'au siècle suivant, au XVIIe siècle. Ils ont fait leur réforme radicale dans le cadre réformé. Ils venaient du tronc réformé. Ils ont réformé la doctrine réformée de l'Église et du baptême. Mais, donc historiquement, ils interviennent à un autre moment. Et puis alors la contre-réforme, ou réforme catholique, comme on dit plutôt aujourd'hui. Autrefois on disait contre-réforme, mais maintenant on dit plutôt la réforme catholique. Elle engendre l'Église catholique dans son visage moderne, assez différent du visage médiéval. C'est une Église où la discipline est restaurée, où les traits anti-protestants sont fortement accusés par rapport à la situation antérieure, où tous les aspects juridiques, où le contrôle par les hiérarchies se renforce énormément, où il y a aussi un certain mysticisme qui va se trouver favorisé. C'est pas au XVIe, c'est au XVIIe. Au XVIIe, et en particulier en France, il y a une floraison de versions nouvelles du catholicisme qui sont riches, avec de belles personnalités, et cela va aussi donner de la consistance à cette Église catholique de type nouveau, d'après sa réforme interne ou contre-réforme, si vous préférez. Telle est la situation que le grand bouleversement du XVIe siècle produit dans notre Occident. Alors, à partir de là, que raconter des efforts de rapprochement, c'est-à-dire de l'écuménisme, au sens qu'on donne habituellement à ce terme. Je vais aller assez vite pour les premiers siècles de cette période, bien que j'aille moins vite que je ne l'ai fait pour les 1500 premières années. Je vais aller assez vite pour ensuite m'attarder un peu plus sur le XXe siècle et arriver jusqu'à nos jours. Première phase, environ deux siècles, je l'intitule les guerres de religion. Les guerres de religion, je prends l'expression au sens large, en incluant aussi les guerres verbales, les guerres d'idées, d'arguments. Pendant deux siècles, on a surtout vu des affrontements. Chacun se retranchait dans ses positions et bombardait avec tous les canons disponibles les autres. Alors il y a eu, au sens le plus littéral, on le sait suffisamment, des armées, des batailles, beaucoup de sang. Et surtout en France, ce qui sans doute a été la cause principale de cette vieille tradition d'irréligion, de scepticisme face aux religieux, qui caractérise encore notre pays, en Europe et pratiquement dans le monde. Les guerres de religion ont produit cet effet. Et on le comprend, hélas, aisément. Mais il y a eu aussi, donc, controverses de théologiens, de prédicateurs. Ça a été le mode principal des relations. On note, en outre, pour cette période, l'autorité qui reste aux autorités ecclésiastiques, aux instances supérieures dans la hiérarchie ecclésiastique. Aussi bien du côté protestant que du côté catholique, on respecte l'institution de l'Église et ceux qui sont à la tête. Ils ont un très très grand poids dans la détermination des pensées des uns et des autres. Et il y a interférence avec la politique à un degré très élevé pendant cette même période. Donc, on s'attaque et violemment entre confessions chrétiennes, selon cette répartition d'églises que j'ai décrite, y compris entre luthériens et réformés, par exemple. On s'attaque durement, et à l'intérieur de chaque camp, alors, l'institution garde un haut prestige, et les prélats et les docteurs exercent vraiment une vive autorité, une forte autorité. Le souci d'union, de réunion de ceux qui sont séparés, de ces blocs qui se font la guerre, on ne le trouve que chez quelques individus. Alors, il n'est pas absent, on le découvre, mais il s'agit en général, pour autant que l'on puisse savoir, parce que chez les simples fidèles, on ne sait pas, vraiment, ils n'ont pas laissé d'écrits, mais il se trouve surtout chez de grands intellectuels érudits, au tempérament généralement irénique, qui prennent du recul et qui se disent « Non, vraiment, vraiment, ça ne va pas. » Et ces gens-là me semblent mus par deux ou trois considérations principales. Il y a leur sensibilité qui se hérisse. Les théologiens sont comme mordus par la rage théologique. C'est une expression qui a été forgée, je pense, à l'époque, mais qui n'est pas impropre. Il y a une façon d'argumenter chez les théologiens, en ce temps-là en tout cas, qui fait penser à la rage, mort de l'adversaire. Et alors, ces grands érudits, à commencer par Erasme, le prince des humanistes au moment de la Renaissance, qui a été aussi un prêtre, qui était ordonné prêtre, ces grands érudits, vraiment, ils ne peuvent pas admettre cette façon de se comporter. Ils sont aussi beaucoup plus conscients de la complexité des problèmes. Leur savoir fait qu'ils savent que dans les disputes, il y a du pour et du contre, qu'on ne peut pas trancher si aisément, que l'esprit de parti tend à tout simplifier et à outrance, à tout résumer à des slogans, et eux disent « Oh, en fait, il faut prendre et en laisser ». Et puis ils se rendent compte alors du tort que causent ces divisions et ces guerres pour la crédibilité du christianisme, auprès des sceptiques, parce qu'il y en a aussi. Donc, s'ils s'efforcent à la réunion, c'est généralement mu de cette façon, et parce que leur orthodoxie est au moins mitigée. Leur orthodoxie se relâche. Chez certains, très peu, chez d'autres, un peu davantage. Alors on peut, je crois que je vais me contenter de citer un seul nom, mais il y aurait quelques noms qu'on pourrait citer. Grotius, qui fut le fondateur du droit international. Il reste dans l'histoire parce que c'est le premier, un très grand monsieur. Il a été commentateur de l'écriture, il connaissait les langues originales, mais il a été aussi juriste et fondateur du droit international, etc. Manifestement, il pense que ces disputes sont déraisonnables. Il a une attitude qu'on n'appelle pas encore écuménique, mais qu'on pourrait appeler écuménique. Mais cela reste marginal. Les institutions sont là, lourdes, elles déterminent essentiellement ce qui se passe. L'autre sensibilité se manifeste seulement dans les marges. La période qui suit, je l'appelle celle des relativisations conciliatrices. Donc ce titre va vous devenir clair, parce que ce n'est pas encore le cas d'emblée. Les revendications des grandes institutions ecclésiastiques avec leur confession de foi, dans le cas du catholicisme, ce seraient les décrets du Concile de Trente qui pourraient en tenir lieu, ces revendications vont se trouver relativisées progressivement. Alors, cette évolution s'amorce au XVIIe siècle, déjà. Mais là, c'est très discret. Elle devient évidente au XVIIIe, au siècle dit des Lumières. Et au XIXe, alors, c'est une vague puissante qui remporte des victoires sur bien des fronts, pas tout à fait partout, mais elle est vraiment très efficace. Et c'est ce qui vraiment prélude au mouvement écuménique moderne dont nous allons parler ensuite. L'évolution qui relativise l'institution avec ses articles de foi. Alors cette évolution est double, je l'ai employé, mais je ne l'ai pas dit encore, le pluriel dans mon titre, relativisation conciliatrice, oui, les relativisations conciliatrices. Il y en a deux. La première, c'est celle du piétisme qui va se continuer dans les réveils. Une ligne dont nous sommes les héritiers. Le courant évangélique, je le présente un peu partout quand j'en parle, comme issu de ces deux sources qu'ont été la réforme de Calvin en particulier, et le mouvement des réveils, qui commence avec le piétisme en Allemagne au XVIIe siècle, lancé par l'Alsacien Spener, S-P-E-N-E-R. Le piétisme, qui engendre au siècle suivant, à partir du XVIIIe siècle, qu'on parle des réveils, le grand réveil de Wesley Whitfield en Grande-Bretagne, et puis il prêche aussi en Amérique, et puis il y a le relais du grand réveil de Nouvelle-Angleterre avec Jonathan Edwards, et puis ensuite alors au XIXe, il y a des réveils un peu partout, même le réveil devient un mot employé pour des phénomènes assez locaux et un peu mécaniques parfois, mais aussi de très très beaux et forts mouvements, comme le réveil du Pays de Galles au début du XXe siècle. Oui. Le réveil du Pays de Galles a eu comme colporteur, commentateur, représentant en France, qui en quelque sorte a fait passer la Manche à l'influence de ce réveil, Rubin Sayens. Rubin Sayens, au début du siècle, est était justement déchargé de la charge pastorale de l'église qui ne s'appelait pas encore du tabernacle, mais qu'il avait fondée, parce qu'il se fait un peu le prédicateur qui relayait l'influence du réveil du Pays de Galles dans notre pays. Donc, je dis que le piétisme, puis les réveils, ont relativisé les institutions avec leurs articles de confession de foi. Et ainsi, ont œuvré pour une conciliation des groupes séparés. Le piétisme met l'accent sur la foi du cœur, sur l'expérience personnelle, et sans abandonner la doctrine fondamentale, manifestement lui donne moins d'importance que ne le faisaient les autorités du luthéranisme ou les autorités de l'Église réformée. Le piétisme est né dans un berceau luthérien, mais à partir du moment, je crois qu'on le comprend très bien, où l'accent porte sur une relation personnelle au Seigneur Jésus, sur la vie de piété, de sanctification, les différences sur consubstantiation ou présence spirituelle de Jésus-Christ pendant la scène semblent perdre de l'importance. Et on ne va plus se massacrer pour ça, ni même se jeter l'anathème. L'accent sur l'expérience est un accent qui relativise la doctrine officielle et l'institution même. Car un thème qui est associé au piétisme et au réveil, c'est que l'important n'est pas d'appartenir à une église, d'être sur les registres d'une de ces institutions. Sûr que vous l'avez entendu, vous l'avez peut-être vous-même dit ou prêché, attesté dans votre témoignage. L'important n'est pas d'être enregistré, d'avoir reçu le baptême dans telle paroisse. L'important, c'est d'avoir fait l'expérience personnellement. Et ça relativise les institutions. Là où l'institution dit, ce qui importe, c'est vos baptêmes que j'ai administrés, le piétiste dit, mais non, ce ne sont que des chrétiens de nom. Ce ne sont que des chrétiens de nom, ce ne sont pas de vrais chrétiens, oui. Puisqu'ils n'ont pas fait l'expérience. Ce qui dévalue l'institution et tout son appareil de cérémonie et toute sa hiérarchie. Et le résultat, c'est que des fraternisations s'opèrent qui auraient été impossibles autrement. Et c'est tout spécialement au XIXe siècle qu'on le voit, mais aussi pendant les réveils. Les foules qui se pressent pour entendre des prédicateurs ou pour se réunir dans des conventions d'approfondissement de la vie spirituelle, mais elles viennent de toutes ces églises diverses. Dans les conventions du XIXe siècle, dans le monde anglo-saxon, vous avez des anglicans, vous avez des frères qui se situent à l'autre extrémité du spectre de ces groupes ecclésiastiques, des baptistes. Vous avez là une grande diversité par l'accent sur la vie spirituelle. Les distinctions perdent de leur importance. Elles ne perdent pas toute leur importance, mais elles perdent de leur importance. Vous avez une relativisation conciliatrice qui se fait. Et je dis dès maintenant, mais je vais y venir, que c'est une des racines historiques du mouvement œcuménique. Deuxième relativisation, c'est celle, je dirais au contraire, du rationalisme ou de l'humanisme plus largement. Là, c'est le prolongement peut-être davantage, mais il faut pas trop durcir les choses. Le prolongement de l'attitude de ces grands érudits, d'un Grotius au XVIIe siècle. L'exercice autonome de la raison par l'homme moderne, y compris dans les églises, conduit à remettre en cause les traditions et les dogmes reçus, et la Bible elle-même, qui n'est plus considérée comme la parole de Dieu, mais un livre humain qui est certes vénérable, mais où on trouve de tout et dans lequel il faut trier. Le rationalisme et l'humanisme, là aussi ça commence au XVIIe siècle, mais là c'est encore très timide et caché, mais ça éclate au XVIIIe et cela triomphe dans beaucoup d'églises au XIXe. Et lorsque vous remettez en doute tous les miracles, l'autorité de la Bible, etc., vous voyez, les vieilles disputes entre luthériens réformés ou même anabaptistes perdent beaucoup de leurs enjeux. Vous rendez compte, on en est très loin. Alors, ce qui peut surprendre, étant donné que nous avons là une relativisation qui devrait être conciliatrice, qui l'est jusqu'à un certain point, ce qui étonne, c'est qu'il y a eu peu de conséquences au XIXe siècle, au moment où le mouvement rationaliste prenait beaucoup d'ampleur, dans le sens d'un rapprochement des églises, dans le sens d'une attitude écuménique quelque peu repérable. Pourquoi ? Je crois pouvoir donner l'explication suivante. J'ai essayé de trouver une explication parce que le fait est assez frappant. Au XIXe siècle, les luthériens rationalistes restent luthériens et les réformés restent réformés et il n'y a pas vraiment de grand rapprochement, même s'ils sont tous ensemble rationalistes. Alors que les piétistes, dans les réveils, eux, se mettent effectivement ensemble. Alors, pourquoi cette différence? Il me semble qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est que ce sont des gens, ces rationalistes, généralement des professeurs d'université, etc., qui sont nommés par le pouvoir, qui sont solidaires de la hiérarchie en place. Or, ces grandes églises luthériennes réformées sont des églises d'État, qui sont liées au pouvoir politique. Et les professeurs d'université sont nommés par le gouvernement. C'est comme ça en Allemagne, c'est comme ça en Suisse et en Grande-Bretagne. Et de ce fait, ce ne sont pas des gens qui vont remettre en cause l'institution comme telle, avec son étiquette, son identité. Je crois que c'est le fait principal qui a joué. Puis un deuxième fait qui peut être invoqué, c'est que tout mouvement de rapprochement, surtout lorsqu'on se place dans une optique rationaliste, des éléments épars de la chrétienté devraient concerner aussi l'Église romaine, puisque l'Église romaine est majoritaire globalement dans l'Europe occidentale. Et puis, elle semble jouir du privilège de l'antériorité. Or, l'Église romaine au XIXe siècle a adopté une attitude de condamnation massive de ce mouvement moderne, de ce rationalisme et de cet humanisme. Elle est antidémocratique, antilibérale, de manière très dure. Et du coup, elle apparaît comme l'image même des forces obscurantistes et réactionnaires à ces théologiens qu'on peut appeler aussi libéraux. Du coup, ils n'ont aucune envie d'esquisser le moindre rapprochement avec l'Église catholique. Oui. Et cela contribue à figer les frontières confessionnelles ou dénominationnelles. Les deux mouvements de relativisation, piétistes d'un côté et rationalistes ou modernistes de l'autre, ont des points en commun. Je crois que nous faisons bien d'en prendre conscience. L'individualisme, l'accent sur la pratique, parce que les rationalistes, finalement, ils ne gardent que la pratique, comme ce qui est vraiment important dans le christianisme. L'intérêt pour l'histoire. Cependant, ils montrent par là qu'ils appartiennent quand même à une même époque. Je pense qu'on doit dire que leurs inspirations sont foncièrement opposées. Ce sont deux mouvements qui procèdent l'un de la volonté de reconnaître à Dieu ses droits et l'autre à placer l'homme au centre. Alors cette situation étant la situation antérieure, le mouvement écuménique caractéristique de notre siècle va pouvoir naître. Et maintenant c'est de lui que je vous parle pour la dernière phase de cette histoire que je retrace. D'abord, la gestation. Avant de naître, il faut demeurer au sein de sa mère. Je pense qu'on peut dire qu'il y a eu une gestation du mouvement écuménique et que cette gestation a été essentiellement évangélique. Que c'est un fait d'histoire qu'on doit reconnaître. Cette gestation du mouvement écuménique moderne, c'est-à-dire de ce qui a été entrepris pour rapprocher, faire collaborer les chrétiens, leur faire exprimer une communion entre eux, que cela a été évangélique. Alors là, je ne parle plus de ces conventions dont j'ai déjà parlé, mais des sociétés bibliques. Elles ont été créées sur une base interdénominationnelle au début du XIXe siècle par des évangéliques, anglicans, réformés, baptistes, etc. Les sociétés des missions, la même chose. Ce sont les premières grandes organisations de type écuménique où collaborent des chrétiens qu'on aurait dit de bords différents. Puis alors il y a l'alliance évangélique, dont on célèbre donc le 150e anniversaire cette année. Et puis de grandes organisations, une qui a été très importante pour préparer le mouvement écuménique, ça a été l'Union chrétienne de jeunes gens, qui a été créée comme un mouvement d'évangélisation des jeunes par les jeunes, tout à fait évangélique, dans son inspiration première, dans sa base de foi. Donc nous avons un mouvement de rapprochement avec deux caractères cependant qu'il faut observer. Cet écuménisme se réduit aux héritiers de la Réforme. C'est-à-dire que les catholiques sont tout à fait en dehors. Pas question d'y inclure les catholiques. Et deuxièmement, le lien qui est créé demeure un lien assez lâche. C'est un lien d'association, mais il n'y a pas d'union d'église. C'est, me semble-t-il, caractéristique de ce mouvement dans cette phase que j'appelle de gestation. Deuxième étape, la naissance. Et puis, on pourra dire l'enfance qui va suivre la naissance. La naissance, on s'accorde très généralement pour dire, la naissance du mouvement écuménique, c'est la conférence des missions d'Édimbourg en 1910. Une grande conférence, il y en avait eu quelques autres auparavant, mais c'était la plus grande, organisée sur une très large échelle. Conférence des missions évangéliques. Hein. C'est le prolongement de cette coopération des évangéliques, en particulier dans le service missionnaire, au XIXe siècle. Mais avec une différence qui explique pourquoi quelque chose de nouveau est né à ce moment-là, ce mouvement écuménique. En apparence, la réunion est une réunion encore évangélique. C'est la grande inspiration du zèle pour évangéliser avec référence à la Bible. Mais il y a eu deux points d'innovation par rapport aux précédentes rencontres de même sorte qui avaient eu lieu à la fin du XIXe siècle, en 1910, et c'est ça qui a tout changé en fait. Décision a été prise d'inclure au maximum les grandes églises institutionnelles, avec leurs dignitaires, archevêques, évêques, etc. Pas catholiques, hein, pas les catholiques, mais les anglicans, les luthériens avec leurs évêques, et archevêques en Suède, par exemple. Un effort a été très délibérément déployé par les organisateurs de cette rencontre en 1910, qui a été présidé par un converti de Moody, John Mott, considéré comme un prédicateur évangélique. Un effort a été consenti pour que les représentants de ces grandes églises à haute tradition soient là. Et du coup, on a admis que ceux qui viendraient ne soient pas forcément tous très, très orthodoxes.